William Shakespeare est célèbre dans le monde entier parce qu'il est probablement le plus grand écrivain, poète et dramaturge de langue anglaise. Il a composé de nombreuses pièces de théâtre et j'ai déjà eu l'occasion de citer un passage de Macbeth, créé en 1605, qui fut joué la première fois en 1623. Dans une scène, Shakespeare décrit ladit Macbeth qui, marchant dans son sommeil, s'exclame en se frottant les mains. « Va-t'en, maudite tâche, je te le dis. Voilà qu'il y a encore l'odeur de sang. Tous les parfums d'Arabie n'adouciront pas cette petite main. » Comme c'est bien vrai. Même si on peut parfois atténuer les injures du temps. Tôt ou tard, la vieillesse nous emmène tous au tombeau. Tous les parfums d'Arabie n'adouciront pas la petite main de Lady Macbeth, et toutes les fragrances du monde ne peuvent rendre un cœur pur. Les hindous croient qu'en se baignant dans le Gange, ils purifient leur cœur. Mais essayer de se rendre acceptable devant le Dieu du ciel par un rite religieux, c'est comme verser un seau de parfum Chanel 5 sur un tas de fumier pour qu'il sente bon. La pureté de l'homme ne peut pas s'obtenir en étant ceci ou en faisant cela. Dans le livre des Proverbes, on lit « Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute ». Si par mes propres moyens, il ne m'est pas possible de me rendre propre, est digne devant Dieu. Je peux par contre très facilement me salir. Je continue de lire dans le livre du prophète Agée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres leurs instructions, dis-leur. Alors Agée redemanda. Si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à l'un de ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là ? Oui, répondirent les prêtres, ils seront impurs. Sous la loi de Moïse, toucher un cadavre est l'acte qui procure la plus grave des souillures rituelles, parce que ce type d'impureté est lié à la réalité la plus tragique qui soit, la mort, qui est la conséquence du péché. Sous le régime de l'Ancienne Alliance, cette souillure dure 7 jours. Et ne peut être purifié que par une succession de rites complexes et contraignants. Dans le livre des Nombres, on lit « Voici la loi qu'il convient de suivre si quelqu'un meurt dans une tente. Tout ce qui entre dans la tente, comme tous ceux qui se trouvent déjà dans la tente, seront impurs pendant 7 jours. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou bien bute sur des ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour le purifier, on prendra des cendres de la vache consumées en sacrifice pour le péché. On les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau de source. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, en aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensibles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou une tombe. L'homme pur aspergera celui qui est souillé le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il le purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera, et le soir, il sera pur. Mais si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel. Puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera cette eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'homme impur sera impur, et la personne qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Une personne rituellement impure communique sa souillure à tout ce qu'elle touche, objet, animal ou être humain. Cette règle de transmission d'un acte coupable énoncé dans la loi de Moïse nous paraît étrange. Mais son but était d'enseigner que nous baignons dans une mare de péché. La souillure rituelle est semblable aux maladies contagieuses virulentes, qui se communiquent facilement d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, nous en avons encore beaucoup qui sévissent dans le monde, comme le paludisme ou les MST, dont le sida. Au Moyen-Âge, la peste décime des populations entières, parce que l'on ne comprend pas d'où qu'elle vient, comment elle se propage, et donc comment l'enrayer. Tout comme les maladies contagieuses, le péché est un mal qui s'étend inéluctablement, si on ne prend pas des mesures draconiennes efficaces pour l'arrêter. Justement, et c'est intéressant de le noter, au Moyen-Âge, les communautés juives sont bien moins exposées aux ravages de la peste parce que les juifs respectent les règles d'hygiène prescrites par la loi de Moïse. Ils sont très méticuleux et comme pour eux, le simple fait d'entrer en contact avec une tombe les rend rituellement impurs. Ils ont coutume de badigeonner tous les ans les tombes en blanc afin qu'on les voie de loin et ainsi qu'on évite de les toucher par mégarde. Jésus a d'ailleurs utilisé cette image dans sa condamnation des chefs religieux. Dans l'Évangile selon Matthieu, il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. » Toute la partie rituelle de la loi de Moïse ne concerne que les Juifs, c'est-à-dire les descendants d'Abraham. De plus, la loi est entièrement abolie depuis que Jésus est venu pour satisfaire toutes ses exigences, qu'elles soient cérémonielles, spirituelles ou morales. La loi est remplacée par le Christ dont l'œuvre rédemptrice s'étend à tous les hommes, de toutes les cultures, de tous les temps. Son sacrifice permet à tous ceux qui se confient en lui d'être pardonnés et d'obtenir un cœur régénéré et pur devant Dieu. Or, rien ne saurait être plus précieux en ce bas monde que de recevoir le pardon de ses péchés. Dans le livre d'Ésaïe, on lit que Dieu dit à son peuple rebelle : « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Le pardon des fautes s'obtient facilement, car Dieu n'est pas difficile à vivre. Il suffit de lui demander et de le recevoir avec simplicité de cœur, comme un enfant qui se reconnaît coupable. Celui qui confesse sa misère morale et accepte en son âme et conscience le salut que Jésus offre gratuitement à toute personne qui le souhaite, reçoit la vie éternelle et une nouvelle nature qui est animée du désir de vivre pour Dieu et qui veut vaincre le mal. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Je continue le texte. Alors Agé reprit et dit : Ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux. L'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toute leur réalisation et de tout ce qu'ils m'offrent là, sur l'autel des holocaustes, c'est impur. Comme lors du premier discours du prophète, L'Éternel appelle la colonie juive « ce peuple » pour montrer son déplaisir au lieu de « mon peuple » qui est la formule habituelle. Après avoir interrogé les prêtres et entendu de leur bouche que la sainteté ne se communique pas, mais que la souillure contamine tout ce qu'elle touche, Agée en tire une leçon pratique qu'il applique aux Israélites. Tout comme un fruit sain ne peut assainir ce qui l'entoure, alors qu'un fruit pourri corrompt ce qui touche. Les actes cultuels et les sacrifices que les colons offrent ne peuvent compenser leurs fautes et sanctifier leur vie qui est souillée par leur indifférence à l'égard de l'Éternel et de sa maison en ruine. Le refus de reprendre la construction du temple qu'ils avaient interrompu les souille eux-mêmes, ainsi que tout ce qu'ils touchent, tant que les travaux des champs que les actes cultuels. Ils immolent bien des animaux sur l'autel des holocaustes rétablis, voilà déjà 18 ans. Mais, comme ces sacrifices sont offerts par un peuple en état de péché, ils sont impurs, ce qui a eu pour conséquence d'éloigner la bénédiction divine de tous les aspects de la vie des colons. Ce n'est pas parce que les Israélites sont revenus en Terre Sainte qu'ils sont automatiquement sanctifiés. Il faut aussi qu'ils obéissent à l'Éternel en reprenant la construction du temple. L'arrêt des travaux a constitué une impureté qui a contaminé toute la vie des colons, y compris les travaux agricoles qui ne donnent pas les résultats escomptés. Ceux qui s'approchent du Dieu trois fois saint doivent eux-mêmes être saints. Ce n'est pas un autel ou la terre promise qui produit une sainteté infuse par contact ou par capillarité. Chaque membre du peuple de Dieu a l'obligation personnelle d'être saint, en menant une vie juste au regard de Dieu. Je me suis demandé pourquoi j'ai fait un discours critique aux colons, discours qui va d'ailleurs poursuivre, alors qu'ils viennent justement de reprendre les travaux du temple avec enthousiasme. C'est peut-être pour enfoncer le clou dans un but pédagogique, afin qu'ils ne s'avisent plus de négliger à nouveau l'œuvre de Dieu. Dans l'ancienne version grecque, le verset 14 est suivi d'une longue phrase qui censure l'attitude des colons et qui, de toute évidence, a été rajoutée par un scribe un peu trop zélé. À quelques détails près, les 5 versets suivants sont repris par le prophète Zacharie. Je continue le texte d'Agée. Et maintenant considérez à partir de ce jour, en remontant en arrière, avant qu'on eût repris la construction du temple de l'Éternel. C'est la 3e fois que le prophète exhorte les colons à fixer leur cœur sur une situation particulière et à bien la considérer. Il renouvellera cet appel encore à 2 reprises, soit 5 fois en tout dans son livre. Ici, Agée remue le couteau dans la plaie en commentant les années de disette qu'ont connues les colons. Il leur demande de se rappeler des conséquences de leur désobéissance quand, après avoir posé les fondations du temple sous le règne de Cyrus, ils ont interrompu les travaux de reconstruction. Leur situation a tourné au vinaigre, car ils ont alors connu une situation économique désastreuse qui a perduré jusqu'à ce qu'ils reprennent la construction du temple suite au premier discours du prophète, le 29 août 520. Je continue. Avant qu'on eût repris la construction du temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un. Vous vous rendiez au pressoir, vous espériez obtenir 1 hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Agée a déjà mentionné les récoltes minables des colons quand il a dit « Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. » Ici, le prophète donne des précisions supplémentaires concernant les rendements passés, considérablement moindres qu'escomptés. Je continue. « Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies des céréales et par la grêle. Mais vous n'êtes pas revenu à moi, l'Éternel le déclare. » Comme précédemment, Dieu assume l'entière responsabilité du désastre économique qui a frappé la colonie juive. C'est la grêle, un fléau encore très redouté par tous les vignerons, qui a détruit la vigne des colons. Quant aux céréales, le texte hébreu mentionne deux maladies qui sont la rouille et la nielle. On les trouve dans les malédictions prévues par la loi, puis dans la prière de consécration du temple par le roi Salomon, et enfin sous la plume du prophète Amos qui écrit « Je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. » Agé dit littéralement « Pourtant pas vous vers moi, l'Éternel le déclare. » Ce qui correspond au passage parallèle du prophète Amos dans une société orientée vers l'agriculture. De tels châtiments sont une catastrophe économique qui menace la survie des habitants. Je continue. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite. Mais réfléchissez d'abord à ce qui est arrivé depuis aujourd'hui, qui est le 24e jour du 9e mois, en remontant en arrière jusqu'au jour où la fondation du temple de l'Éternel fut posée. Oui, faites bien attention. Comme en hébreu, ce verset est embrouillé. J'ai fait une paraphrase. C'est la quatrième fois qu'Agé dit « considérez attentivement », littéralement « fixez vos cœurs sûrs ». Et de plus, il tourne et retourne le couteau dans la plaie en insistant lourdement sur la désobéissance passée du colon juif. Il termine enfin ses commentaires concernant le châtiment de Dieu. Mais il veut que les Israélites reviennent encore une fois en arrière dans leur pensée et considèrent les années de disette qu'ils ont subies depuis les premiers travaux de restauration du temple qui avaient été entrepris sous le règne de Cyrus, jusqu'au temps présent, qui est le 18 décembre 520, jour du troisième message du prophète. Agé leur demande d'embrasser du regard cette période où le peuple a manifestement été privé de la bénédiction divine parce qu'ils avaient renoncé à reconstruire le temple, bien que cela fasse maintenant 3 mois que les colons ont repris les travaux. Ils ont engrangé une mauvaise récolte, parce qu'ils subissent encore les conséquences fâcheuses du jugement de Dieu sur l'année écoulée. Les suites douloureuses des vieux péchés se prolongent souvent au-delà du moment de la repentance. C'est vrai pour les croyants sous l'ancienne alliance, et ça l'est également sous la nouvelle alliance. Par exemple, un fumeur invétéré qui accepte Jésus comme son sauveur peut expérimenter la délivrance du tabagisme. Mais il est peu probable qu'il reçoive une nouvelle paire de poumons rose bonbon. Nous sommes le 18 décembre 520, et à partir de maintenant, la situation des colons va radicalement changer, et pour le mieux, car ils vont expérimenter la bénédiction que Dieu a commencé à verser sur eux dès la reprise des travaux de reconstruction du temple, mais qui se traduira seulement dans les faits au moment de la prochaine récolte. Je continue. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même si la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit, à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Le grain, le vin et l'huile font alors partie des denrées de base essentielles à la subsistance, tandis que les grenades et les figues sont des aliments de luxe. À cause du jugement de Dieu, la maigre récolte de l'année précédente, qui n'a pas été la proie des insectes et des maladies, a été dévoré par les colons et les granges sont vides. Mais à partir de maintenant, place à la bénédiction divine. Eh bien, qu'il n'y ait encore aucune trace de feuilles ou de fruits dans les terres cultivées et sur les arbres. Rien par lequel on puisse faire une estimation de la prochaine récolte. L'Éternel promet que celle-ci sera abondante. Dieu promet de bénir abondamment son peuple, ce qui se traduira par la fertilité des terres et l'abondance de nourriture. Ces bienfaits font partie des bénédictions de la loi. Dans le livre du Deutéronome, on lit « L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. » Et le prophète Malachi écrit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il détruira plus les produits de vos terres et vos vignes. Dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Aujourd'hui, dans son arrogance, l'homme moderne prétend ne plus avoir besoin de Dieu. Pourtant, il est totalement dépourvu devant ce qu'il appelle les catastrophes naturelles. Mais le sont-elles vraiment ?